Alors voilà, on vit des choses magnifiques à l'écoute de Priscille Michel, notre pasteur, et on a le plaisir de t'écouter à nouveau ce matin. Et je vais demander la bénédiction du Seigneur sur ton message et sur toi. Seigneur, merci de nous avoir envoyé Priscille. Merci de la bénir dans sa méditation ce matin avec nous. Merci de la conduire, de la soutenir. Et que nous soyons nous-mêmes des auditeurs attentifs, que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire ce matin au travers de ta parole. Sois loué. Amen.
Amen. Alors aujourd'hui, on continue sur notre série, une communauté animée par l'espoir. Et le titre du message, c'est « Enraciné dans le futur ». Un peuple rempli d'espoir. Pour vous rappeler juste un tout petit peu ce dont on a parlé la dernière fois, j'avais envie de vous parler des travaux d'un psychiatre, René Spitz, qui dans les années 40 a été faire des observations dans les orphelinats de New York. Et au fait, à cette époque-là, dans ces orphelinats, les enfants, ils étaient nourris, blanchis, logés. On prenait soin d'eux de manière physique. On prenait soin qu'ils aient assez à manger et qu'ils aient un lit pour dormir. Mais il n'y avait pas de volonté d'établir un lien affectif fort avec ces enfants. Et ce que René Spitz il a observé, c'est que ces enfants, si ils étaient pris en tant que bébés dans ces orphelinats et qu'ils restaient trop longtemps dans ces orphelinats, au-delà de 5 mois dans un orphelinat avec les traitements qu'ils recevaient, ils arrêtaient de se développer. C'était des enfants qui, à 4 ans, n'étaient pas capables de se mettre debout, ils n'étaient pas capables de marcher. Et puis, il a aussi fait une observation dramatique, c'est que 37% de ces enfants mouraient avant l'âge de 2 ans. Le fait que ces enfants n'appartiennent à personne qui les aimait avait des conséquences fatales sur leur développement. Et si je vous parle d'un exemple aussi dramatique, c'est pour mieux vous faire saisir le contraste d'être nous des personnes qui appartenons à un Dieu qui nous aime. Et la dernière fois, on a vu l'immense espoir d'appartenir à Dieu, un Dieu qui nous aime, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous vous rappelez peut-être également aussi la dernière fois, on a vu que c'était absolument essentiel pour nous de comprendre en tant qu'Église qui on est, et la raison pour laquelle on est là. Que c'est la seule manière de sortir de la confusion dans laquelle se trouve si souvent l'Église aujourd'hui. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple rempli d'espoir. Et la première raison, c'est celle que nous avons vue la dernière fois. Notre identité de personne appartenant à ce peuple, notre identité, fondamentalement, elle est définie par notre appartenance à Dieu. Et puis la deuxième raison, on va la voir aujourd'hui. Nous sommes un peuple enraciné dans le futur. Et c'est pour cela que nous sommes un peuple rempli d'espoir. Alors j'aimerais vous lire le texte dans 1 Pierre. Vous savez qu'on suit l'épître de 1 Pierre tout au long de ces prochains mois. Et j'aimerais vous lire les versets 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Je crois que je vais m'arrêter là, au verset 9. Alors, dans la première partie de ce message, et qui est la partie la plus importante du message aussi, j'aimerais essayer de vous donner une vision renouvelée de ce qu'est le salut. Dans le texte que nous venons de lire, la louange de Pierre, hein, c'est une magnifique phrase de louange. Dans le grec, c'est une seule phrase, tous ces versets que je vous ai lus. Elle monte petit à petit en crescendo, cette louange de Pierre, et puis elle arrive dans un fortissimo. Vous avez obtenu le salut de vos âmes. Et dans la pensée de Pierre, le salut de vos âmes, il est à comprendre comme le salut de votre personne tout entière, pas juste votre âme séparée du corps. Mais si dans le texte, dans la louange de Pierre, le fait qu'on ait obtenu le salut, ça éclate en un fortissimo, ce n'est pas forcément le cas pour ces lecteurs. Le salut, ça ne provoque pas forcément ce fortissimo dans leur vie. Et aujourd'hui, pour nous aussi, des fois, assez souvent même peut-être, quand on entend ce mot salut, on reste un petit peu indifférent. Alors, commençons par la difficulté que les lecteurs de Pierre rencontrent. Alors pour eux, ils vivent des circonstances très difficiles. On les a vus la dernière fois. Ils sont exilés, ils sont persécutés. Et dans ces circonstances-là, ils ne voient peut-être plus très bien ce que le salut change dans leur vie, à part leur apporter plein de misère. Et pour nous, qu'en est-il ? Nous avons un autre problème. On a entendu ce mot « salut » tellement de fois que des fois, c'est un peu devenu comme du bruit dans nos oreilles. Et puis, des fois, on a l'impression que ce mot « salut », ça correspond à quelque chose de très, très abstrait. Quelque chose qui aura certes une implication de notre vie, mais pas de notre vivant. Pierre, face au constat que ses lecteurs sont dans une situation très difficile, il commence sa lettre par leur donner une explication renouvelée de ce qu'est le salut. Et pour parler de ce salut, il va utiliser deux métaphores et un mot qui vont pouvoir leur faire comprendre, mieux saisir toute la richesse qui se trouve dans ce salut en Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on a un nouveau problème. C'est que ces métaphores et ce mot utilisé par Pierre, on les a entendus tellement de fois que de nouveau, ils ont pas mal perdu de leur consistance, de leur épaisseur. Et aujourd'hui, notre tâche, c'est d'essayer de découvrir de façon fraîche ce que signifie le salut pour nous. Et pour cela, il faut qu'on redécouvre de manière nouvelle ce que veulent dire ces deux expressions et ce mot utilisé par Pierre. Alors, la première métaphore, c'est dans le texte, il nous a fait naître de nouveau. Pierre parle de la nouvelle naissance. Et nous avons entendu cette expression tant de fois. Et de nouveau, elle n'a plus beaucoup de consistance pour nous. Et pire encore, des fois nous arrivons à cette expression avec une interprétation qui n'est pas celle qu'elle devrait être, qui n'est un peu trompeuse. Et pour cette raison, nous n'arrivons pas à entendre le salut que Dieu nous a donné. Et à quel point ce salut, c'est une majeure source d'espoir dans nos vies. Alors, on voit la nouvelle naissance comme un billet de train. Nous croyons que Jésus est mort sur la croix. Nous disons merci beaucoup pour qui il est nous lui disons merci d'avoir pris nos péchés sur la croix, de les avoir portés à notre place. Et puis, paf, on reçoit un billet de train. Merci beaucoup. On le prend, on le met dans le porte-monnaie et puis on le garde pour le jour de notre mort où il nous servira. C'est un billet pour le ciel. Mais est-ce que c'est vraiment ça la nouvelle naissance? La naissance dans son premier sens, et je suis assez bien placée pour vous en parler, c'est le passage d'une vie intra-utérine à une vie extra-utérine. Et en fait, pour l'enfant qui naît, à ce moment-là où il passe de cette vie intra-utérine à cette vie extra-utérine, il n'y a plus jamais rien qui sera la même chose pour lui. Il aura une nouvelle manière de respirer, une nouvelle manière de se nourrir, une autre relation avec les sons, les odeurs. Tout est nouveau. Cette nouvelle vie que le bébé reçoit change tout pour lui. Alors on pourrait dire qu'il est toujours la même personne, c'est toujours le même bébé, mais tout son environnement a changé. Et pour nous, on pourrait dire exactement le contraire. Notre environnement est toujours le même, mais nous sommes changés. C'est ça la nouvelle naissance. Et pour mieux vous faire comprendre la nature de ce changement, j'aimerais vous parler d'un événement dans l'Ancien Testament, dans Nombre 17. Alors, on ne voit pas très bien, mais vous avez le grand prêtre Aaron. Et Dieu a voulu prouver devant le peuple d'Israël que le grand prêtre Aaron était celui qu'il avait choisi et que c'est lui qui avait autorité pour exercer la prêtrise. Et il a fait fleurir le bâton que Aaron avait. Et sur ce bâton, en une nuit, ce bâton mort, ont poussé des fleurs et des amandes. Alors, à échelle humaine, la seule amélioration pour le bâton d'Aaron, c'était d'être poli un petit peu plus, pour être un petit peu plus lisse dans la main. Mais à échelle divine, l'histoire était différente. Dieu pouvait faire renaître la vie de ce bâton, de ce vieux morceau de bois mort. Et c'est ça la nouvelle vie que Dieu nous donne. Ce n'est pas un billet de train pour le ciel. C'est une nouvelle vie pleine de promesses, de fleurs, de fruits, d'abondance. Mais quand est-ce qu'on reçoit cette nouvelle vie? Maintenant, quand nous disons oui au salut? Ou bien est-ce qu'on reçoit cette nouvelle vie au retour du Christ? Et la réponse qu'on donne à cette question, elle a des implications absolument essentielles pour notre vie. Alors pour voir si c'est maintenant, aujourd'hui, que nous recevons cette nouvelle vie, au retour du Christ, j'aimerais regarder le mot que Pierre utilise pour parler du salut. Oh. Il vous a fait naître à nouveau pour une espérance vivante. C'est le deuxième mot que Pierre utilise pour parler du salut, l'espérance. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est l'espérance, j'aimerais commencer par vous parler de ce qu'elle n'est pas. Alors, on ne voit pas très bien, mais j'avais trouvé une très belle photo de faire part. Et c'était pour vous dire que si vous me dites que vous vous mariez dans 2 mois, cet événement futur, il a une implication sur votre vie présente. Vous êtes d'accord? Si vous vous mariez, ça a une implication sur comment vous vous sentez, sur votre paysage émotionnel. Peut-être que vous êtes heureux et tout léger à l'idée de vous marier. Peut-être que vous êtes stressé, angoissé, mais en tout cas, ça ne vous laisse pas indifférent. Ou ce n'est pas censé vous laisser indifférent. Et puis, le fait que vous vous mariez, ça a aussi un impact sur vos actions. Dès aujourd'hui, vous avez plein de choses à faire pour vous préparer à votre mariage. Et ça, ça pourrait sembler une bonne définition de ce qu'est l'espérance. Le salut qui est vu comme un événement futur qui a un impact sur notre présent. Un jour, nous serons pour toujours avec Dieu. Et cela influence comment nous nous sentons aujourd'hui et ce que nous faisons. Par exemple, vous êtes tous venus à l'église aujourd'hui. Magnifique. Ça pourrait sembler une bonne définition de l'espérance, mais c'est pas comme ça qu'on peut, c'est pas comme ça que Pierre envisage l'espérance. Et pour mieux envisager ce qu'est l'espérance, alors on va regarder la dernière métaphore que Pierre utilise pour parler du salut. Alors, peut-être que ça va venir. Il décrit le salut comme un héritage. Est-ce que j'appuie encore une fois ? Ok. Un héritage. Là, vous voyez le fils prodigue recevoir son héritage de son père. Un héritage, nous dit le texte, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Alors encore une fois, quand on nous possède un héritage, nous pouvons être très tentés de voir ceci comme quelque chose d'uniquement réservé pour le futur. Et c'est juste d'envisager le fait que le salut a des implications futures, comme un héritage que nous recevrons un jour. Mais dans ce terme d'héritage, j'aimerais vous montrer qu'il y a aussi des implications pour aujourd'hui. Pas seulement des implications dans la manière dont nous nous sentons et dans ce que nous faisons parce que nous savons que nous allons recevoir cet héritage, mais aussi des implications dans notre vie, dans la vie qui est la nôtre. Et pour cela, j'aimerais vous montrer deux images. Alors, vous voyez un homme pauvre et un homme riche. Là maintenant, vous imaginez que c'est deux hommes et chacun un fils. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ces deux fils ont la même vie ? Ou bien est-ce qu'il se pourrait que le fils de l'homme riche ait des habits un tout petit peu plus beaux que le fils de l'homme pauvre et un tout petit peu plus de privilèges dans sa vie ? Et nous, quand nous disons oui au salut que Dieu nous offre, quand nous disons oui à l'amour du Fils, dont le sang a coulé pour que nous puissions appartenir à Dieu, qu'est-ce qu'on devient ? On devient les héritiers de Dieu, Dieu le Père. Et en tant qu'héritier de Dieu, le roi de l'univers, ne pensez-vous pas que nous jouissons d'une vie différente de la vie que nous avions avant d'être adoptés par lui. Et d'ailleurs, on sait qu'on jouit d'une vie différente à cause d'un événement bien particulier. Dans le texte, il nous est dit, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu a commencé il y a 2000 ans à la résurrection du Christ. C'est un royaume de paix, de joie, de restauration profonde de toute la création et de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est l'espérance du salut ? C'est non seulement avoir le futur qui impacte notre vie présente comme une pensée joyeuse, mais c'est déjà appartenir à cette vie du futur, alors que nous sommes toujours dans le présent. Alors dans le slide, j'avais trouvé une image où le futur était représenté par la couleur rouge, on ne le voit pas très bien, et puis le présent par la couleur bleue, et dans ce bleu du présent, il y a aussi le rouge du futur. Nos vies sont enracinées dans la vie du futur. Et comme cette vie du futur, c'est la vie du royaume de Dieu, nos vies sont enracinées dans l'espoir. Alors, pour terminer sur cette partie, sur ce qu'est le salut, j'aimerais vous parler d'une tension. Cette tension, elle est due au fait que nos vies sont à la fois enracinées dans le futur, cette vie de Dieu magnifique, qu'il nous donne, ce salut qu'il nous donne, mais en même temps on vit dans le présent de nos circonstances. Et dans le slide, on voit ces racines, toutes en couleur magnifique, et puis ça parle de nos vies enracinée dans cette vie du futur et en même temps, ben, l'arbre, c'est le paysage de l'arbre, c'est un paysage assez monochrome, sans couleur. Et ça, ça parle des fois de ce que, à quoi ressemble le présent de nos circonstances. Le royaume de Dieu, dans la présence dans ce monde, a été inauguré par la résurrection du Christ. Ce royaume de Dieu qui a inauguré la vie du futur, il est là qu'en partie pour l'instant. L'aspect présent de notre salut, c'est que nous participons à un royaume qui est déjà présent dans notre monde. L'aspect futur de notre salut, c'est que ce royaume, il sera là complètement, uniquement à la seconde venue du Christ. Alors, entre ce présent dans lequel nous vivons et ce futur dans lequel nous sommes enracinés et dont nous jouissons déjà en partie, il y a une tension. Les lecteurs de Pierre, ils sont pris dans cette tension, et nous, nous sommes aussi pris dans cette tension. Et dans le texte, si vous le lisez de manière attentive, vous pouvez voir que Pierre montre cette tension entre ce que nous avons déjà reçu et ce que nous recevrons complètement par le temps des verbes qu'il utilise. Il utilise, pour parler du salut, il utilise tantôt des verbes passés, tantôt des verbes futurs. Et il parle ainsi de ces deux aspects du salut. Cette tension entre le présent et le futur, de ce que nous avons reçu et de ce que nous recevons complètement, de ce royaume de Dieu qui a été inauguré, mais qui ne le sera complètement qu'à la seconde venue du Christ, cette tension, Pierre l'a vécue lui-même. Il a vécu cette vie du futur. Il l'a vécue quand, assemblé avec tous les disciples de Jésus, ils ont reçu l'Esprit Saint sur eux, qui est venu. Cet esprit qui les a remplis de force, de puissance, de courage. Cet esprit qui leur a transmis cette vie du futur. Cet esprit que nous, nous avons aussi reçu. Il a vécu cette vie du futur quand un ange l'a délivré alors qu'il allait se faire exécuter le lendemain. Il a vécu cette vie du futur quand sa seule ombre, l'exposition à sa seule ombre permettait que des malades soient guéris. Il avait un don de guérison extraordinaire, Pierre. Mais il a aussi vécu la vie du présent. Il s'est fait arrêter et il s'est fait battre plusieurs fois. Et puis il est mort en martyr. Et c'est une tension que l'on voit tout au long de l'histoire de l'Église. Et c'est une tension dans laquelle il est difficile de vivre. Et ainsi, vous voyez tout au long de l'histoire de l'Église aussi des mouvements d'Église qui ont mis trop d'emphase, soit sur le fait que la vie du royaume, elle est déjà complètement là, soit sur le fait que la vie du royaume, c'est quelque chose uniquement pour le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous présentons le salut comme la vie du futur qui est déjà complètement là? Je pense que nous nous trompons nous-mêmes et que nous trompons les autres. Nous présentons le salut comme le fait que tout le monde est riche, hein, voyez cette Bible de laquelle pleuvent des dollars. Tout le monde bénéficie d'une santé physique parfaite. Tout le monde bénéficie d'une santé psychique irréprochable. Et puis, si vous êtes pauvre ou malade ou les deux, alors c'est que vous n'avez pas assez de foi. Qu'est-ce qui se passe maintenant si à l'autre extrême, on présente le salut comme n'ayant aucune implication dans notre vie présente, une vie que nous recevrons de Dieu seulement à sa venue? Alors le grand danger de cette vision, c'est ne plus voir de sens à cette vie si ce n'est celle d'être une grande attente de ce moment où Jésus reviendra. Et puis, un autre danger de cette vision, c'est de voir le sens de l'Église comme uniquement un lieu où on s'encourage parce que la vie est un petit peu dure et difficile en attendant que Jésus revienne. Et puis, un autre grand danger, et c'est peut-être le plus grand, de cette vision, c'est de penser que tout repose sur nos épaules. La vie du futur, on la recevra un jour, c'est un facteur de motivation. C'est un beau cadeau qu'on sait qu'on va recevoir dans 5, 10, 15, 20, 60 ans, 80 ans, le jour de notre mort. Et ce cadeau, ça nous motive. Ça nous motive à prendre soin des autres, à prendre soin des pauvres, à promouvoir l'éducation, à promouvoir le soin de la création, à prêcher le salut. Mais tout repose sur nos épaules. Comment répondre à ce salut que Dieu nous offre? Comment vivre cette tension entre le présent et le futur? Et j'aimerais passer maintenant à la deuxième partie de ce message, notre réponse. Dans cette partie, on considère notre réponse à ce salut que Dieu nous offre. Et c'est la foi. Notre réponse à ce salut, c'est la foi. Et si vous regardez les versets 6 à 9 du texte de 1 Pierre, ces versets parlent de notre réponse à ce salut qui nous a été donné. Face à l'espérance que Dieu nous a donnée et dans laquelle nous habitons, nous répondons avec foi. Nous réagissons avec une vie pleine d'espoir, une vie confiante qui a foi en Dieu, remplie de cette vie du futur, remplie de Dieu. Et le verset 8, je trouve que c'est une description absolument magnifique de la foi qui vit dans cette tension entre le présent et le futur. Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui et êtes rempli d'une joie inexprimable et glorieuse. J'aimerais vous poser une question. Quel est l'objet de notre foi? Qu'est-ce qui nous remplit de joie et d'admiration? Est-ce que c'est la vie que nous recevons de Dieu, le salut que nous recevons, cette vie du royaume? Ou bien est-ce que c'est l'auteur qui nous donne ce salut? Et j'aimerais revenir au bâton d'Aaron. Quand le peuple d'Israël a vu ce bâton sur lequel avaient germé des fleurs et des fruits pendant la nuit, qui est-ce qu'ils ont aimé? Qui est-ce qu'ils ont cru en? À qui est-ce qu'ils ont décidé de faire confiance? Est-ce que vous pensez que c'était au bâton? Ou bien est-ce que vous pensez que c'était à Dieu qui a produit ses fleurs et ses fruits? En raison de ces amandes et de ces fleurs qui sont le premier fruit d'une récolte bien plus abondante, dont nous jouirons pleinement à la seconde venue du Christ, à cause de cette vie du futur inaugurée par la résurrection du Christ, nous aimons, nous croyons et nous nous réjouissons en Christ, l'auteur de cette vie. Ça, c'est une définition de la foi. Et ça, c'est une clé aussi. C'est une clé pour vivre cette tension entre le futur, où nous recevrons notre héritage de manière complète, et le présent, dans lequel nous vivons que partiellement cette vie du futur. Malgré tous les privilèges dont nous jouissons déjà en tant qu'enfants de Dieu, on peut traverser des circonstances arides, des circonstances où les fruits et les fleurs de ce salut se font rares. Pierre les a traversés, ses lecteurs les ont traversés. Et nous allons traverser des saisons comme ça. Peut-être même que certains d'entre vous, vous traversez une saison comme ça en ce moment. Quand on se trouve dans une situation aride, on peut observer plusieurs réactions différentes dans notre manière, dans notre réponse de foi à ce salut que Dieu nous donne. Alors, un premier groupe de personnes, c'est des gens qui adaptent leur théologie et plus particulièrement leur manière de voir le salut. Alors, et peut-être qu'ils ne formulent pas les choses comme ça, mais pour eux, le salut, c'est le billet de train dont je vous ai parlé au début de ce message. Quelque chose qui ne leur apporte rien pour cette vie. Les fleurs et les fruits de cette nouvelle vie que Dieu leur a offerte, ce sera pour plus tard. Mais pour l'instant, pour s'en sortir dans la vie, ils vont faire appel à autre chose qu'à Dieu pour s'en sortir, parce que Dieu, il ne va rien faire pour eux. Ils ne peuvent rien recevoir de Dieu dans cette vie. La réaction d'un deuxième groupe de gens, c'est des gens qui aiment tellement, mais tellement, tellement les fleurs et les fruits, qu'ils ont oublié d'aimer Dieu. Et leur vie, elle est davantage focalisée sur les fleurs et les fruits que sur Dieu, l'auteur de ces fleurs et de ces fruits. Ils aiment les signes miraculeux, l'intervention divine plus que Dieu. Et leur vie tout entière, elle se focalise sur ça. Puis finalement, un troisième groupe. Avant toute chose, ils aiment Dieu de manière profonde. Ils sont en admiration devant qui il est. Ils savent que le salut qu'ils ont reçu de Dieu, c'est une nouvelle vie dans laquelle ils sont entrés. Et que celle-ci, elle se manifeste déjà en eux, au travers d'eux, autour d'eux, en toutes sortes de fleurs et de fruits. Ils font confiance à Dieu. Ils savent que quoi qu'il arrive, ils peuvent compter sur lui. Leur confiance, elle ne se base pas sur les fleurs et les fruits, disparaissant quand les fleurs et les fruits se font rares, mais leur confiance, elle se base sur Dieu, l'auteur de ces fleurs et de ces fruits. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage, mais il faut quand même une fois que je conclue. Je pense que vous êtes d'accord avec ce que je vais dire là. Mais ce que l'on croit de son futur, de son avenir, ça influence énormément. Ça a une énorme influence sur la manière dont on vit aujourd'hui. Si on pense que demain ne va rien apporter de bon, alors nous allons vivre aujourd'hui de manière désespérée. Si on pense que demain va nous sourire, la perspective sur aujourd'hui, elle est toute différente. Avec le salut que Dieu nous a offert, c'est pas juste la perspective d'un futur qui nous sourit qui est là, mais c'est le fait que nos vies sont déjà enracinées de ce futur. Non seulement notre avenir est radieux, une vie dans un royaume de paix, de joie, d'harmonie, dans la présence de la source et de l'auteur de tout amour, Dieu. Non seulement notre avenir est radieux, mais nous vivons déjà en partie dans cet avenir. Nous vivons déjà cette vie du futur. Nous sommes un peuple rempli d'espoir, parce que nos vies sont enracinées dans la vie du futur que Dieu nous offre. Et je vous laisse cette image de cet arbre enraciné dans la vie du futur.